En séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
L'Europe est cette année l'un des principaux thèmes de travail de l'Académie des sciences morales et politiques placée sous la présidence de M. Michel Albert. Tous les lundis à 15h en salle des séances, un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie vient présenter une communication consacrée à ce thème. La séance du lundi 5 juillet 2004 accueillait le journaliste et écrivain Jean Boissonnat. Jean Boissonnat a évoqué l'Europe et Dieu. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances pour écouter cette toute dernière communication de l'année avant de nous retrouver au mois de septembre avec d'autres communications et d'autres invités. Jean Boissonnat.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, Monsieur le Secrétaire perpétuel, si vous avez demandé à un journaliste et non pas à un historien, un philosophe, un théologien de traiter un sujet aussi intimidant que l'Europe et Dieu, c'est sans doute que vous attendez ici un témoignage, comme vient le dire Monsieur le Président, de quelqu'un qui est un Européen de nationalité française et qui est un chrétien de confession catholique et romaine. Donc un témoignage peut être un reflet d'opinion et non pas un propos d'érudit. Aussi, je demande évidemment toute l'indulgence de cette assemblée où je reconnais plusieurs de mes maîtres, outre quelques amis, qu'ils tolèrent des affirmations qui leur paraîtront peut-être parfois abruptes, voire des démonstrations qui pourront leur paraître parfois, j'espère le moins possible, approximatives. Mon propos tient en deux phrases. Dieu a fait l'Europe, l'Europe a défait Dieu. J'entends ici Dieu comme un terme générique qui englobe le spirituel, les faits religieux eux-mêmes, les institutions, les églises. Dans un premier temps, je vais donc m'attacher à vous expliquer pourquoi, à mes yeux, Dieu a fait l'Europe. Dieu en Europe, c'est le christianisme, une religion qui est née aux confins de l'Europe et de l'Asie, dérivé de la foi d'un peuple, le peuple juif, dans la parole d'un Dieu unique. Cette secte chrétienne, comme on l'appelait, n'était pas bien vue des Romains en ce qu'elle compliquait la gestion des rapports avec le peuple juif, car les autorités romaines reconnaissaient comme légitime que ce peuple puisse honorer ses pères. Il ne fallait donc pas qu'il soit trop turbulent. Conscients des soupçons dont ils pouvaient être l'objet, les chrétiens protestaient de leur soumission au pouvoir de l'homme, de Rome. Jésus n'avait-il pas refusé de prendre la tête de la résistance? Et Paul avait-il caché la légitimité du pouvoir en place? Mais les chrétiens se distinguaient tout de même par des comportements difficiles à admettre par les autorités de l'époque. En effet, ils refusaient le culte des idoles, les sacrifices sanglants, les jeux du cirque. Ils répugnaient à porter les armes et ils affirmaient leur tempérance. Ce qui fait dire à Edward Gibbon, dans son livre sur le déclin et la chute de l'Empire romain à la fin du XVIIIe siècle, je le cite, « Les chrétiens ne fuyaient pas moins les affaires et les plaisirs du monde en inculquant des maximes d'obéissance passive. » Ils refusaient de prendre part à l'administration civile ou à la défense militaire de l'Empire. Cette indifférence indolente ou même criminelle pour le bien public les exposait au mépris et aux reproches des païens. On demandait aux partisans de la nouvelle secte quel serait le destin de l'Empire assailli par les barbares si tous les sujets adoptaient des sentiments aussi pusillanimes. Fin de citation. En somme, le christianisme ne serait pas pour rien dans la chute de l'Empire. Alors que cet empire en faisait au IVe siècle une religion d'État, édit Constantin, officialisation par Théodose Ier. Au Ve siècle, c'est la chute de Rome, puis l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Eh bien, sans état d'âme, l'Église passe aux barbares. Et à la fin du Ve siècle, c'est le baptême de Clovis et à travers lui, la christianisation du peuple franc. Le christianisme a donc pleinement profité de l'Empire pour se diffuser sur un territoire qui englobait au début l'Empire, l'Europe géographique, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, mais en même temps, il sapait d'une certaine manière les fondements de la puissance impériale. Mais l'effondrement de cette puissance l'investit tout à coup d'une tâche de suppléance, pourrait-on dire, qui n'était nullement dans sa vocation, exercer directement ou indirectement le pouvoir pour sauvegarder les liens sociaux sans lesquels l'espèce humaine retourne à la sauvagerie originelle et hors desquels la diffusion du message évangélique ne s'opère plus. Charlemagne, premier père de l'Europe, est couronné empereur à Rome en l'an 800, et c'est le début d'un long concubinage conflictuel, je crois qu'on peut employer cette expression, entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Dans le même temps, le territoire de cet empire chrétien est amputé à l'est et au sud par l'arrivée de l'islam et ramené de ce fait à l'intérieur de l'Europe géographique. Au Xe siècle, le Saint-Empire romain germanique, qui à vrai dire n'a jamais été vraiment un empire, fait son apparition officielle, conforté autour de l'an 1000 par la complicité intellectuelle entre notre cher Gerbert d'Aurillac, devenu le pape Sylvestre II, et le jeune, très jeune et brillant Othon III. Entre Charlemagne et Othon, entre Aix-la-Chapelle et Rome, la chrétienté est née, elle durera 1000 ans. Ses limites géographiques seront définies comme malgré elles, d'abord par la division de l'ancien empire romain, Occident-Orient, puis par la rupture consécutive à ces divisions au sein de l'Église entre Rome et Constantinople, avec des épisodes tragiques, comme le sac de Constantinople par les croisés en 1204, dont nos frères orthodoxes n'ont pas fini d'entretenir le remords chez les catholiques. Je note d'ailleurs que le pape Jean-Paul II, recevant la semaine dernière le patriarche Bartholomée, lui a rappelé ce triste épisode pour s'en excuser en quelque sorte. Et naturellement, les frontières de cette chrétienté étaient définies par la pression islamique arabe au sud et turque à l'est. Constantinople tombe en 1453 et Vienne est encore assiégée par les troupes ottomanes à la fin du XVIIe siècle. Voilà la chrétienté ramenée à la dimension de l'Europe, alors que sa vocation est universelle. Telle est l'Europe chrétienne, saluée par tous les auteurs, y compris les moins suspects, je pense à Voltaire et à Rousseau, et j'ai trouvé dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, à l'article Europe, la définition suivante. Je les cite. « Il importe peu que l'Europe soit la plus petite des quatre parties du monde par l'étendue de son territoire, puisqu'elle est la plus considérable de toutes par son commerce, par sa navigation, par la fertilité, par les lumières et l'industrie de ses peuples, par la connaissance des arts, des sciences et des métiers, et ce qui est le plus important, écrivent Diderot et d'Alembert, par le christianisme, dont la morale bienfaisante, disent-ils, ne tend qu'au bonheur, de la société. » Fin de citation. Qu'est-ce que le christianisme occidental a apporté à ce territoire exigu où les peuples venus du fond des terres asiatiques ou bien du fond des âges historiques se sont entassés? L'individualité, l'universalité, la compétitivité, et ça fait beaucoup. Le christianisme est une religion de la personne, et non pas d'un peuple, comme le peuple juif, ni d'une nation, comme la nation arabe. Chaque être humain est unique. Dieu lui parle à lui personnellement. Il lui a envoyé son fils, Jésus, qui lui-même s'est fait homme. Certes, l'homme est pécheur, mais il doit avouer ses péchés, s'en repentir et les surmonter. Au contact de cette réalité douloureuse, l'Église définit le purgatoire, c'est elle qui l'a défini, comme pour convaincre chaque individu que rien n'est jamais perdu. Le jugement personnel précédera le jugement dernier, ce qui ne manque pas de dynamiser chacun. Le christianisme n'est pas seulement une religion de l'individu, c'est aussi une religion de l'universel. Pas question de garder pour soi, tout seul, le message reçu. Il faut le proclamer, le diffuser. Extraordinaire moteur pour les conquêtes où se mêlent comme toujours dans les comportements humains le spirituel, le matériel et le politique. Augustin, qui s'y connaissait en passion, recommandait de ruser avec elles pour mieux les maîtriser. Ce fut le mariage pour la passion du sexe, l'État pour la passion du pouvoir et la redistribution pour la passion de l'argent. Malgré son concubinage avec le pouvoir politique, l'Église n'a jamais aboli la distinction entre le politique et le religieux. Ce qui devait plus tard, fût-ce contre le gré de l'Église, ouvrir la voie à la démocratie. De même, son attachement au rite ne l'a jamais détourné de la distinction entre la lettre et l'esprit, avec en dernière analyse une préférence pour l'esprit sur la lettre. Et si l'économie moderne est née en Europe, ce n'est pas parce que l'Europe avait découvert les techniques avant les autres, la Chine avait tout inventé, ni parce que les Européens étaient plus intelligents que les autres, les Arabes avaient tout compris, mais parce que la religion des Européens dégageait plus d'espace pour les initiatives individuelles et collectives. Toutefois, cette Europe née de Dieu allait retourner ce qu'elle en avait hérité contre lui. Et voilà comment l'Europe a défait Dieu. Dans cette Europe qu'il construisait, Dieu a vu fleurir d'innombrables portraits de lui-même. On l'a représenté comme un César qui n'avait dépouillé l'autre César que pour revêtir lui-même la pourpre impériale, dont son vicaire sur la terre, le pape, s'octroyait toutes les prérogatives. Il se dotait d'une puissante administration, entretenait une coûteuse diplomatie, armait des troupes, levait l'impôt, rendait la justice. Du coup, l'empereur, le vrai, s'inquiète. Il pèse lourdement dans la désignation de ce concurrent dangereux. D'ailleurs, il ne se prive pas d'intervenir dans la définition des dogmes eux-mêmes, dans le choix des évêques et dans la répartition des bénéfices ecclésiastiques. Le pape réagit, il bâmonnait, et il va jusqu'à accorder des indulgences pour payer la construction de sa propre basilique, Saint-Pierre de Rome. Devant ces prêtres qui vivent comme des princes, ces pardons que l'on achète, cette morale si peu morale, le bon peuple s'y perd et les grands esprits s'indignent. Et aux marches de ce pseudo-empire, la chrétienté, des rois voient bien les bénéfices qu'ils peuvent tirer de cette concurrence institutionnelle entre le pape et l'empereur. C'est le cas en particulier pour les monarchies françaises et anglaises, par ailleurs souvent opposées l'une à l'autre. Les Anglais iront jusqu'à nationaliser leur christianisme sous le nom d'Église anglicane. Les Français se contenteront d'un gallicanisme moins institutionnel, mais non moins ombrageux. On va voir se construire dans l'espace, entre le César de Rome et celui de l'Empire, un formidable pouvoir qui va bouleverser les structures de notre continent, le pouvoir de la nation, lequel allait peu à peu s'approprier l'essentiel de la puissance politique, ses monarchies nationales, si je peux me permettre cette approximation, se veulent naturellement investis de la légitimité divine, mais dès lors que chacune revendique Dieu pour justifier ses intérêts particuliers et ses appétits de puissance, ce Dieu unique se démultiplie et cesse d'être ce qu'on dit de lui. Le voilà qui se dissout dans la confrontation des intérêts nationaux. Chacun peut proclamer Dieu avec nous. La robe sans couture ne résiste pas à ses déchirements. L'Église se divise, la réforme naît de toutes ses contradictions, au risque parfois de les aggraver. Une Église divisée fait souffrir son Dieu unique, elle participe donc à son affaiblissement, d'autant que les joutes, qui ne sont pas seulement oratoires, ensanglantent le terrain et les peuples. Durant ce millénaire de la chrétienté, la plupart des guerres auront été religieuses. Terrible contradiction pour une religion qui se veut celle de la paix et du respect de la vie. L'Europe n'affaiblit pas seulement Dieu dans ses institutions, elle le conteste dans sa nature, en soulignant des contradictions entre la raison et la foi. Là encore, c'est le christianisme qui a ouvert la brèche. Puisque l'homme contribue à la création, puisque chacun a son identité irréductible, puisque sa pensée est un reflet de celle du Père, au nom de quoi va-t-on le brider dans ses recherches et dans ses inventions? Et voilà que la raison débouche sur la science, laquelle contredit les enseignements traditionnels de l'Église qui prétend parler au nom de Dieu. Luther, dit-on, aurait dit de Copernic que c'était un âne, et l'Église catholique a beau condamner Galilée, finalement il est bien vrai que la Terre n'est pas le centre d'un monde où les autres objets de l'espace feront la ronde autour d'elle. Deux siècles plus tard, c'est l'origine de l'homme elle-même qui est bousculée par les théories de l'évolution. Depuis 3 millions d'années, nous progressons vers notre humanité qui a pris sa forme actuelle, dit-on, depuis 40 ou 50 000 ans. Et cela fait 80 à 90 milliards d'êtres humains dont la moitié a vécu depuis la naissance de Jésus. On comprend mieux alors la réplique du marquis de la place à Napoléon, « Dieu, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. » Dieu qui a fait l'Europe s'entend dire chez lui qu'il est une hypothèse inutile. Nietzsche n'a plus qu'à conclure, Dieu est mort. Les élites européennes ne sont pas seules à faire souffrir Dieu. Les peuples s'y mettent eux aussi. Ils trouvent d'ailleurs dans le message évangélique lui-même des matériaux pour leur propre rébellion. Puisque César n'est pas Dieu, on peut le bousculer. Puisque chaque homme en vaut un autre, chacun peut prétendre participer à la définition de son destin. Voilà les rois très chrétiens chahutés sur leur trône et bientôt renversés. Certes, la démocratie n'est pas apparue partout en contradiction avec la religion. L'Amérique, nous dit Tocqueville, a réussi, je le cite, à combiner merveilleusement l'esprit de religion et l'esprit de liberté. Fin de citation. Il n'empêche qu'en Europe, Dieu est bousculé de tous côtés par les jeux de pouvoir, par l'éclatement de sa propre Église, par la contestation scientifique, par les élites qui récusent son savoir et par les peuples qui rejettent son pouvoir. Et il est emporté comme une digue inutile par les flots du développement matériel. L'économie moderne ouvre les portes de l'enrichissement à tous les continents et à tous les hommes, même s'ils ne sont encore qu'un sur cinq à y avoir accès. Le matérialisme ne nie pas le spiritualisme, simplement il s'en passe. Or l'Europe a été la plateforme de départ de cette extraordinaire aventure, précisément parce qu'elle a bénéficié d'un climat religieux qui n'entravait pas l'initiative individuelle, alors que la Chine, mieux dotée techniquement, s'enfermait dans des entraves quasi-administratives et que l'islam, plus en avant scientifiquement, s'immobilisait dans ses rites. À l'Est, trop d'États. Au Sud, trop de religions. Chez nous, en Europe, une compétition permanente entre individus et entre nations. L'Église y contribue en convertissant le travail humain de punition céleste en coopération à l'œuvre du Créateur. En faisant sonner ses cloches pour découper le temps, ce qui nous apprendra à le mesurer et à le comparer au travail accompli, c'est-à-dire à la découverte de la productivité clé de la nouvelle économie, l'économie du développement qui va se substituer à l'ancienne économie, l'économie de subsistance. Mais le marché et le profit n'engendrent pas spontanément la justice sociale, alors se lève la contestation du système, les prolétaires contre les bourgeois, le socialisme contre le capitalisme, et au passage, la religion est dénoncée comme l'opium du peuple. Si le travail n'est plus une punition, si l'enrichissement n'est plus honteux, si l'acte sexuel n'est plus seulement un moyen de procréation, alors que devient le péché? Où est-il? Quel est-il? L'Europe secoue cet ultime moyen de pression que Dieu semblait brandir sur nos têtes. Certes, nous voyons bien que ce n'est pas Dieu directement qui a fait l'Europe, c'est la chrétienté. Mais voilà que l'Europe a dissous la chrétienté, ce qui ne peut pas être indifférent à l'avenir de Dieu sur notre continent. Lors du Concile Vatican II, l'archevêque de Cracovie se lève et il déclare, je le cite, « C'est la fin de l'ère constantinienne caractérisée par l'entente stricte entre l'Église et l'État, illustré au plus haut point par la naissance du Saint-Empire romain. » Fin de citation. 15 ans plus tard, cet homme sera pape sous le nom de Jean-Paul II. Alors aujourd'hui, après ce double constat, Dieu a fait l'Europe, l'Europe a défait Dieu, où en sommes-nous? Le christianisme a cessé d'être un cadre pour les Européens, c'est-à-dire un ensemble de règles, d'institutions, de valeurs enseignées obligatoirement à tous. Mais si ce n'est plus un cadre, cela reste une source. Comment la repérer, s'y abreuver pour ceux qui le souhaitent, la répandre partout, en Europe et hors d'Europe? À cette interrogation du chrétien s'ajoute la préoccupation du politique qui se souvient de cette phrase de Tocqueville, je le cite, « Si l'homme a perdu la foi qu'il serve, et s'il est libre, qu'il croit. » Fin de citation. car le fait religieux peut aussi être considéré comme un régulateur de la vie démocratique à laquelle il offre des repères et des réflexes. Si Dieu est mort, a dit Dostoïevski, tout est permis. Selon les annuaires statistiques, il y aurait 2 milliards de chrétiens aujourd'hui dans le monde, dont un bon milliard de catholiques. 1 milliard 200 millions de musulmans et à peu près autant d'hindouistes et de bouddhistes additionnés. Sur un siècle, le nombre des chrétiens aurait quadruplé, autant que la population mondiale, et celui des musulmans sextuplé. Mais la répartition géographique des chrétiens a beaucoup changé. La majorité des catholiques, par exemple, est passée de l'Europe aux Amériques. En Europe, les statistiques, toujours elles, annoncent tout de même 80% de chrétiens et moins de 5% de musulmans. Si l'on creuse un peu plus profond que des statistiques, les sondages nous donnent une image plus nuancée du phénomène religieux en Europe. La régression des croyances religieuses est spectaculaire depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis les spasmes sociaux des années 60. On estime à 25% la pratique religieuse, c'est-à-dire au moins une fois par mois, en Europe occidentale aujourd'hui, avec des plus bas, moins de 10% en France et en Suède. Et plus globalement, l'appartenance à une religion, il s'agit ici de l'appartenance et non plus de la pratique, a régressé en 20 ans, passant de 85% à 75%, avec là encore des plus bas, en France, 57%, et aux Pays-Bas, 46%. Toutefois, les dernières enquêtes semblent indiquer que la régression s'essouffle, notamment chez les jeunes et dans les pays d'Europe centrale et orientale, où il est vrai, le cadre politique autorise désormais le fait religieux. À l'Ouest, le religieux chrétien profite peut-être aussi de l'effondrement des religions séculières, nationalisme et communisme, de la recherche d'une identité face à la menace réelle ou supposée de l'islam, et du désir d'explorer toutes les drogues douces pour soigner ses états d'âme. Pour autant, la crise des vocations religieuses ne faiblit pas en Europe occidentale, alors que dans le reste du monde, on observe un phénomène inverse. Depuis le début du pontificat de Jean-Paul II, le nombre de séminaristes dans le reste du monde aurait presque doublé. En France, étant donné l'âge moyen des prêtres aujourd'hui, on peut prévoir que le nombre de prêtres va diminuer des deux tiers, je dis bien des deux tiers, en 10 ans. Ce qui constitue non seulement un choc spirituel, religieux, mais un choc sociologique majeur, sur lequel personne aujourd'hui ne réfléchit, sauf dans l'Église. Nous retrouvons là une question centrale. Comment faire pour que le fait religieux, qui a si puissamment contribué à la modernisation de la société, ne succombe à sa propre réalisation? Permettez-moi ici un détour personnel. 3 hommes ont beaucoup pesé dans l'idée que je me suis fait de ces problèmes. Et je voudrais les citer ici. Emmanuel Mounier m'a expliqué que la fin de la chrétienté était sans doute le début d'un christianisme plus fidèle à l'enseignement de Jésus. Henri de Lubac m'a montré les aspects sociaux du dogme chrétien qui ne peut pas être une simple religion de la consolation individuelle si elle veut être fidèle à sa vocation historique. Enfin, Pierre Teilhard de Chardin m'a convaincu que l'humanité était la conscience de l'évolution du monde, la conscience de l'évolution du monde, et que la création se poursuivait sous nos yeux et pour une part de nos mains. À partir de là, je vois l'Europe qui se construit, et je vois l'Europe qui se construit dans un monde qui se globalise. J'en vois toutes les difficultés, toutes les déceptions, mais aussi toutes les promesses. Qui aurait pensé? Voilà seulement 20 ans que l'Europe se doterait d'une monnaie et d'un traité constitutionnel. C'est-à-dire qu'elle jetterait les bases d'un nouvel État sans aucun précédent dans l'histoire. Aucun précédent. Ce n'est ni une nation, ni une fédération comme nous en avons connu tant. Et j'avoue ne pas pouvoir me passionner sur la question de savoir si l'on a eu raison ou non, dans le préambule de ce traité constitutionnel, d'évoquer seulement les héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, sans référence explicite au christianisme. L'essentiel, me semble-t-il, dans un texte de cette nature, un traité constitutionnel, est de reconnaître le rôle des religions dans le dialogue institutionnel et dans le respect des traditions nationales. La religion n'est nullement cantonnée dans la sphère privée et c'est à mes yeux l'essentiel. Deuxième sujet de controverse, les frontières de l'Europe. Eh oui, il faut bien venir là. Je crois qu'il faut d'abord comprendre que la construction européenne vient de changer d'âge, et un changement d'âge assez radical avec l'élargissement à 25 pays membres. A-t-on seulement remarqué que désormais dans l'Union, la majorité des pays membres ne fait pas partie de la zone euro. C'est une autre étape qui commence, très différente de la précédente. Nous n'échapperons pas à de nouvelles candidatures, la Turquie naturellement, les États balkaniques et l'Ukraine. Ma conviction, et nous y reviendrons peut-être dans le débat, c'est qu'il faut les accueillir avec un a priori favorable. Je comprends les objections que l'on peut faire et toutes ont des fondements. Toutes les objections que l'on fait ont des fondements. Il faudra prévoir les délais nécessaires. Mais il faut, me semble-t-il, avoir le désir farouche, d'aboutir. Faute de quoi les Balkans ne seront jamais pacifiés, l'Ukraine n'affirmera pas son identité face à la Russie, et la Turquie ne fera pas entrer l'islam dans le monde moderne avec le respect de sa singularité culturelle, comme a su le faire le Japon et comme sont en train de le faire la Chine et l'Inde. L'Europe a une mission qui la dépasse. Elle est un laboratoire de paix et de développement pour le reste du monde. L'Europe doit beaucoup au christianisme. Son identité originelle, nous l'avons vu, les artisans de son union, et je tiens à citer ici le nom de Robert Schuman, qui m'a paru oublié lors des célébrations récentes de la réconciliation franco-allemande. On a peu parlé de Robert Schuman. Sa capacité, l'Europe a donné sa capacité... Elle doit au christianisme sa capacité à surmonter l'hypernationalisme qu'elle avait elle-même inventé. Aujourd'hui, l'Europe peut payer une partie de ses dettes à Dieu, notamment en offrant un cadre nouveau à l'œcuménisme. Là encore, j'ai lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt les propos échangés lors de la rencontre entre Jean-Paul II et le patriarche de Constantinople. Car la réconciliation entre orthodoxes et catholiques est aujourd'hui une priorité absolue du point de vue chrétien. Après les progrès réalisés, même s'ils ne sont pas achevés, avec les églises réformées. Pour vous dire le fond de ma pensée, je rêve d'une sorte de confédération des églises chrétiennes dans laquelle se retrouveraient tous les disciples de Jésus dans le respect de leurs traditions et de leurs institutions. Il est dans la vocation du christianisme de se déseuropéaniser, s'il veut offrir un visage accueillant aux masses asiatiques qui ne le connaissent pas, mais qui vont le rencontrer à l'occasion du phénomène de la mondialisation. Dieu a fait l'Europe. Si l'Europe s'en défait d'une certaine manière, c'est aussi pour l'offrir aux autres. Et si elle n'est plus institutionnellement chrétienne, elle peut le devenir davantage spirituellement. J'émets l'hypothèse que la mondialisation peut être une deuxième chance du christianisme dont l'Empire romain avait été une première chance. Une chance pleine de périls, naturellement, n'est-ce pas Renan qui écrivait à propos de la reconnaissance par l'Empire du christianisme comme religion officielle, je le cite, que l'Église allait périr de son triomphe. Fin de citation. Elle n'a pas péri, mais elle a souffert. À la mondialisation, le Dieu des chrétiens apporte sa vocation universelle, le respect de la vie, la primauté de la personne, y compris de la femme, la priorité aux pauvres, la distinction du politique et du religieux, la tempérance face à la richesse, au pouvoir et à la sexualité, pas seulement face à la sexualité. Chaque chrétien est comptable de cette mission. J'aime citer le pasteur Bonhoeffer, vous savez, exécuté par les SS pour avoir comploté contre Hitler. Il y a une phrase qui me revient souvent et avec laquelle je vis. Bonhoeffer dit, écrit, je le cite, « Devant Dieu, avec une majuscule, soyez comme étant sans Dieu, avec une minuscule, libre, adulte et responsable. » Merci de votre attention.
L'Europe et Dieu, c'est la communication prononcée par le journaliste et écrivain Jean Boissonnat devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 5 juillet 2004. Communication suivie d'un débat, d'une séance questions-réponses avec Mgr Etchegaray, Jean-Claude Casanova, Jean Béchler, Gabriel Debreuil. Ont également posé des questions Roland Drago, M. Édouard Bonnefous, M. Bourgeois, M. d'Espagna, M. Amouroux, Delarosière, Zemb, Jean Foyer et Jean Ménard. Nous écoutons à présent les réponses de Jean Boissonnat.
Oui, mesdames et messieurs, en vous écoutant, j'ai pris la mesure de la témérité de mon propos. Et je suis évidemment écrasé par la pertinence des questions qui me sont posées et bien conscient que les réponses ne seront sans doute pas à la hauteur de cette pertinence. Mais je vais essayer de répondre à chacune. Tout d'abord, le cardinal Etchegaray, je crois, nous a rappelé un fil conducteur que peut-être je n'avais pas mis suffisamment en valeur, mais qui est tout à fait fondamental pour moi, c'est que parler des faits religieux est une attitude scientifique, sociologique, ce n'est pas religieux. Je veux dire que la religion, c'est effectivement tout autre chose, c'est une adhésion par la foi d'un être humain, pas d'une collectivité, pas d'un, etc., d'un être humain, nous voyons dans le christianisme tel que je l'ai vécu moi. Je ne parle que de ce que j'ai expérimenté, et que être croyant, c'est autre chose qu'être religieux. Je suis très sensible à cette remarque, et elle va d'ailleurs me servir en cours de route pour non pas répondre aux questions qui m'ont été posées, mais vous donner mes réactions à ces questions. Jean-Claude Casanova nous a parlé de la religion démocratique. Je vois en quel sens, alors cette fois sociologique, politique, il évoque ce concept de religion démocratique. Je ne crois pas qu'en termes, alors au nom de ce que je viens de dire sur ce qu'est la nature profonde du phénomène religieux, c'est-à-dire l'acte de foi d'un être libre, on puisse parler de religion démocratique. Au sens où il l'entend lui, c'est-à-dire de valeurs partagées, et de valeurs partagées dont les origines peuvent être diverses pour chacun, mais dont les valeurs elles-mêmes sont construites pour tous. Là, je comprends qu'on puisse exprimer ce sentiment, mais je ne crois pas que l'on puisse parler, enfin moi je ne ressens pas comme possible pour moi de parler de la démocratie comme d'une religion. Il s'agit d'autre chose qui peut avoir ses fondements dans l'idée que je me fais de l'être humain, de ses rapports avec Dieu, si Dieu existe pour moi et je conçois qu'il puisse ne pas exister pour d'autres. Mais c'est autre chose, c'est une traduction sociologique, politique, construite et pas du tout mineure, mais ce n'est pas une religion. Monsieur Béchler me dit, faut-il identifier Dieu et le christianisme? Évidemment non, sauf pour un chrétien, et que l'on ne peut pas ici se séparer de l'identité qui est la sienne. Et j'aurais fait un autre exposé si l'on m'avait demandé de raisonner comme un sociologue, comme, etc., comme un philosophe sur le phénomène de Dieu et du christianisme. On m'a demandé, je crois, comme un témoin, et donc je devais décliner mon identité, et que pour moi, Dieu n'a pas d'autre sens en dehors de ma foi à moi. Mais, et donc, mon identification entre Dieu et le christianisme n'est pas une identification académique ou scientifique, c'est une identification à travers ma propre expérience. Et c'est bien vrai que Dieu n'a pas besoin de l'Europe, et qu'en soi, l'Europe n'a pas besoin de Dieu. Ce que j'ai voulu analyser, c'est comment dans la vie concrète, je crois que ce qui est, me semble-t-il, très important dans notre propos de cet après-midi, c'est de voir comment le phénomène chrétien a vécu sur cet espace territorial que l'on appelle l'Europe, comment il y a germé, comment il a pu être parfois nié, bafoué ou trahi, souvent trahi d'ailleurs, parce que nous sommes ainsi faits, nous sommes l'espèce humaine et nous-mêmes nous ne sommes pas Dieu. Donc nous avons souvent trahi cette originalité-là, mais nous avons vécu avec et nous l'avons fait évoluer avec. Il y a un homme dans la religion chrétienne qui pour qui j'ai beaucoup de sentiments d'adhérence, c'est le cardinal Newman. N'est-ce pas, l'idée que le christianisme est un phénomène en développement. Et quand je me réfère à ce que le Christ lui-même disait, Je suis le chemin. Je ne suis pas seulement la vérité, je suis le chemin. C'est-à-dire que je ne viens pas imposer un cadre auquel on doit faire référence. Je suis quelqu'un qui vous indique un chemin, puis sur ce chemin, vous allez vous débrouiller, avancer, véhiculer, risquer votre liberté, risquer votre vie. Et d'ailleurs, lui-même a risqué la sienne puisqu'il en est mort. Donc l'idée que la religion chrétienne, celle qui m'importe aujourd'hui ici, ce n'est pas simplement un ensemble, une constitution de vérité, mais un chemin éclairé par un être humain comme moi, dont je crois, moi, mais c'est ce qui me distingue en tant que chrétien. Le chrétien, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui croit que Jésus-Christ était fils de Dieu. Bon, on peut tout à fait ne pas croire cela. Et on peut même trouver dans ce que nous savons des bribes historiques sur son existence, des tas de choses qui montreraient qu'après tout, non, puisque il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été bon, il a marché à cloche-pied quelquefois, lui aussi. C'était donc un homme dont nous croyons, nous chrétiens, c'est ce qui nous définit comme chrétiens, qu'il était Dieu. Mais on peut parfaitement le contester, cela. Mais à partir du moment où on ne le conteste pas, il est clair que l'idée de chemin, l'idée de voie, est plus importante que l'idée de vérité, parce qu'elle nous responsabilise, nous. Voilà, me semble-t-il, un point, en tous les cas, pour éclairer ma propre pensée. Je ne dis pas que je réponds aux objections qui nous sont faites. Gabriel de Broglie nous a rappelé le rôle du gothique et de la chevalerie, tout à fait à juste titre, et nous abordons là quelque chose qui a été repris par beaucoup d'entre vous, et dans lequel je veux exprimer mon embarras à moi. Où est-il mon embarras ? Quand je regarde le christianisme, l'Europe et l'avenir, c'est qu'il est bien vrai que sur les terres européennes, le christianisme a pris des figures institutionnelles ou des figures de mœurs, toutes choses qui ont fait pression sur les hommes et les femmes qui ont vécu sur ce territoire et qui les ont conduits soit à adhérer, soit à refuser. D'ailleurs, cette religion. Autrement dit, pouvons-nous imaginer qu'une personne, quelle qu'elle soit, en quelque sorte retranchée dans sa liberté absolue, puisse, sans égard avec les pressions sociologiques, institutionnelles ou politiques, se déclarer croyant ou pas croyant ? C'est quelque chose qui me fait effectivement question. Et à ceux qui répliquent en disant « mais la religion n'est jamais vécue indépendamment des cadres et du moment, de la période historique et du milieu géographique dans lequel elle s'exprime », c'est vrai. Et donc, je suis toujours un peu embarrassé pour me convaincre moi-même de ce que je crois être mon sentiment sur le sujet, c'est-à-dire le fait que l'homme adhère librement et totalement libre à ça. Je sens bien que nous ne sommes jamais totalement libres vis-à-vis de quoi que ce soit. Et que je ne peux pas considérer comme secondaire le fait que l'environnement dans lequel j'évolue me conduit ou ne me conduit pas vers telle conviction ou vers telle foi. J'ai été élevé dans un milieu chrétien mais non pratiquant, dans un lieu géographique très peu christianisé, qui était les quartiers populaires de Paris, et donc je n'ai pas été porté vraiment par mon environnement sociologique ou géographique vers cette religion. Il n'empêche que même s'ils n'y m'y ont pas poussé, ils ont constitué un cadre sans lequel je ne sais pas si j'aurais rencontré cette foi. Et donc, je suis toujours un peu gêné lorsque je prêche moi-même l'hypothèse que c'est bon pour le christianisme ou pour le fait religieux d'être complètement indépendant des structures sociologiques et politiques, en me rendant compte que pour beaucoup d'êtres humains, c'est à travers les pesanteurs qu'ils ont rencontrés dans ces structures qu'ils ont trouvé le chemin de cette foi. Donc, je ne nie pas là mon propre embarras, le gothique et la chevalerie étant une des illustrations de cela, mais je ne le nie pas parce que c'est vrai que historiquement, nous ne sommes jamais autonomes, complètement autonomes par rapport aux structures dans lesquelles nous évoluons, et donc il ne peut pas être totalement indifférent que cette structure conteste, ne conteste pas, font référence ou simplement ignore la foi religieuse à laquelle je souhaite adhérer. Monsieur Roland Drago nous a rappelé quelque chose de tout à fait fondamental, c'est qu'effectivement, l'État français n'a pas le choix. et qu'il ne pouvait pas à la fois avoir la constitution qui est la sienne et se laisser entraîner sur un terrain dont je vous ai dit pour moi qu'il était secondaire. J'ai senti que quelques-uns d'entre vous d'ailleurs partageaient mon sentiment sur le fait que ce soit ou que ce ne soit pas dans ce texte, c'est relativement secondaire, mais pas tous, beaucoup d'autres sont dans un sentiment différent, mais je crois que l'État français, enfin, je ne vois pas pourquoi il aurait été plus fructueux pour l'avenir de la construction européenne que de déclencher dans certains pays membres, et singulièrement en France, une polémique autour de ce sujet. Je crois que le coût en aurait été beaucoup plus élevé que le profit, mais c'est un sentiment personnel. Monsieur Jean-Marc Zem, Dieu n'a pas besoin de nous. Oui, c'est vrai, Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui, je crois, et si vous voulez, j'exprimerai mon sentiment sur ce sujet-là dans une formule dans laquelle j'essaye de définir qu'est-ce que c'est qu'un chrétien aujourd'hui. Un chrétien aujourd'hui, ce n'est pas simplement un homme qui croit en Dieu. Il y a des tas de gens qui croient en Dieu. Ce qui, me semble-t-il, caractérise le chrétien d'aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui a la conviction que Dieu croit en l'homme. Dieu croit en l'homme. Il croit à sa créature. Et que cela nous investit d'une responsabilité gigantesque. Non pas pour agir sous la dictée de Dieu, Dieu se garde bien de dicter quoi que ce soit, mais parce que nous ne pouvons pas à la fois affirmer que nous croyons en Dieu, mais que nous sommes convaincus que Dieu croit en nous, et nous libérer de notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle je citais tout à l'heure le pasteur Bonnefère. Monsieur Foyer, vous avez évoqué les problèmes de la déchristianisation en Europe, et vous avez dit que la crainte de Dieu s'est trop estompée par rapport à l'amour des hommes. La crainte de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ? On pourrait évidemment y passer des journées. C'est d'abord un père. Il s'est présenté comme père, parce que son fils qui est venu l'a appelé comme ça. Il l'a appelé papa. Et comme il était homme, c'est notre père à tous. Donc, la première caractéristique du Dieu tel que je le ressens, c'est d'être mon père, mon papa, mon autre papa. La deuxième caractéristique, c'est qu'il est le créateur. Il a créé. Et cette création n'est pas achevée. Alors ça, vous direz, c'est vous qui le dites. Oui, bon, c'est moi qui le dis, et c'est vrai que je trouve, pour m'en convaincre, des hommes comme le père Teilhard de Chardin. Mais il est aussi mon juge. Et là, il est vrai que de ces trois caractéristiques du Dieu des chrétiens, Père, Créateur et Juge, on a aujourd'hui magnifié le Père, on a reconnu le Créateur et l'on a esquivé le Juge. Pourquoi l'a-t-on esquivé le Juge ? Peut-être parce que dans ces institutions ont peut-être trop abusé pendant un moment de dire « nous sommes l'arme du Juge ». Et d'ailleurs, elles étaient très malines, ces institutions. Elles avaient le bras séculier. Dans la distinction entre l'Église et l'État, il y avait cette ruse qui consistait pour l'Église à faire réaliser ses jugements par l'État et à ne pas les réaliser elle-même. C'était le bras séculier. On remettait au bras séculier celui qui avait été jugé. Et ces excès du Dieu juge à travers son Église expliquent probablement que dans la phase actuelle, on minimise à tort, à mes yeux, et là je vous rejoins, cette troisième caractéristique de Dieu qui est à la fois mon Père, mon créateur et mon juge. Enfin, Jean Ménard, il y a une aspiration chrétienne à l'unification de l'Europe, c'est vrai, mais là, je reprends ce qui, pour moi, est l'essentiel, c'est que nous sommes dans un univers évolutif, que dans cet univers évolutif, nous devons assumer la totalité de notre héritage, mais que nous ne sommes pas là simplement pour gérer l'héritage. Nous sommes là pour inventer à nos risques et périls des comportements, des attitudes qui seront les nôtres et dont nous n'avons pas à faire porter la responsabilité à Dieu, même si Dieu joue un rôle dans notre jugement, donc qui seront les nôtres pour effectivement construire à travers cette déseuropéanisation du christianisme et cette ouverture de l'Europe sur ses frontières pour faire en sorte que ce dont nous avons bénéficié dans cet héritage puisse éventuellement servir à d'autres s'ils en acceptent l'occurrence. Merci de votre attention.
C'était le journaliste et écrivain Jean Boissonnat devant l'Académie des sciences morales et politiques. Séance publique du lundi 5 juillet 2004, la dernière séance de la saison avant la reprise au mois de septembre. Cette communication de Jean Boissonnat avait pour thème l'Europe et Dieu. Communication suivie d'une séance de questions-réponses avec les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité du texte de cette intervention sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse www.asmp.fr. Le site vous propose également de découvrir l'ensemble des travaux de l'Académie et des académiciens.
Canal Académie.